Hier, il y en a échappé une!
C'est pas à François Legault, ni à Pierre Fitzgibbon, ni à la successeur des deux, Christine Fréchette, de choisir qui doit avoir du succès en affaires au Québec. C'est avec votre mérite que vous faites de l'argent, pas avec des subventions de ma tante Christine. Et...
Éric Duhaime, t'as qualifié la PM de ma tante?
Ben écoute, j'ai pris le même discours que je faisais avant quand je parlais pour dénoncer les subventions puis le paternalisme de la CAQ là, avec son interventionnisme de subventions à la North Pole et Lyon Électrique. J'utilisais mon oncle.
Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une règle non écrite. Tu peux dire ça d'un homme, mon oncle, mais si t'appelles une dame ma tante, ça se peut qu'elle pogne les nerfs.
Oui, mais c'est pas irrespectueux. Là. Je veux pas d'aucune façon manquer de respect à la première ministre. Au contraire, là, je trouve ça heureux. T'sais. Je l'ai même salué quand elle a été élue, qu'une femme accède à la plus haute fonction au Québec pour la deuxième fois. Je pense que ça témoigne l'ouverture des Québécois. Puis je pense que c'est tout à notre honneur. Fait que c'était pas une attaque contre les femmes. Là. Je l'ai fait pas mal souvent avec M. Legault. Puis ça a jamais marqué. Il n'y a jamais personne qui m'en a reparlé.
Éric Duhaime, tu as choisi Bellechasse comme oui. circonscription aux prochaines élections. Il y a beaucoup de gens qui ont contesté cette décision-là de choisir cette circonscription-là. Entre autres, une députée qui a mentionné que c'était que tu prenais la population pour des caves, alors qu'elle-même n'habite pas cette propre circonscription-là. C'est assez particulier. Pourquoi avoir choisi Bellechasse?
Ben, pour la première, d'abord, là, quand t'es chef de parti, faut que tu t'assures de te faire élire. Je suis allé là où les chances du parti de gagner sont les plus grandes, je vais l'avouer, très candidat en partant. Deuxièmement, le gros dossier dans la région de Québec, on se le cachera pas, ça a été depuis une décennie, puis ça risque malheureusement de l'être encore à la prochaine élection, le fameux dossier du troisième lien. Puis le comté, nous autres, ce qu'on propose, là, de continuer le pont qu'ils sont en train de construire entre la rive nord puis l'île d'Orléans, puis de le continuer jusque sur la rive sud, mais il arrive dans Bellechasse, il arrive dans Beaumont. Donc, je pense que c'est symbolique aussi. C'est le comté qui se sent le plus roulé dans la farine par rapport à ça. Puis troisième élément, c'est le fait que j'ai envie de représenter la ruralité. J'ai beaucoup aimé faire campagne dans les villages, dans Tabasco l'été dernier. La ruralité au Québec est trop souvent ignorée par nos politiciens. Il n'y a aucun chef qui représente la ruralité au Québec. Puis j'ai envie de parler pour ce monde-là.
Quand on parle d'un troisième lien, toi, tu prendrais le pont de l'île qu'on est en train de rebâtir puis tu le continuerais de l'autre côté. Pourquoi?
Ben parce que c'est le moins cher, le plus rapide à construire puis celui qui est dans le carton du gouvernement depuis un demi-siècle. Hier, vous avez vu, là, la CAQ est ressorti un nouveau tracé, un peu plus à l'ouest, là, un petit peu à l'ouest de la pointe de l'île d'Orléans. Un tracé qui va coûter beaucoup plus cher, beaucoup plus long, là, au total tout. C'est 3,5 km sur l'eau, 8 km en l'ensemble. Je veux dire, pourquoi faire? Ils sont en train, à quelques centaines de mètres de là, de construire un pont à 2,8 milliards à l'île d'Orléans.
Ah, pour sauver des coûts, Éric, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème étant que là, on parle d'un projet qui a plus d'ampleur que le Golden Gate pour ce qui est du projet de la Coalition Avenir Québec. Dans votre cas à vous, pour votre projet, donc de continuer le pont qu'on fait pour l'île d'Orléans actuelle, est-ce que les pentes ont été calculées?
Oui, parce que justement, quand ça arrive du côté de l'île, je ne sais pas si les gens connaissent la pointe de l'île à ce bout-là. Là, quand tu prends le chemin Prévost, au bout, c'est un cap qui est déjà surélevé par rapport au fleuve. Puis du côté de la rive sud, l'eau est très peu profonde, puis il y a une possibilité là, d'étirer ça très long avant de redevenir au niveau du sol. Donc, oui, ça a été pris en considération parce que la voie maritime du Saint-Laurent passe là quand même. Il faut s'assurer que la hauteur soit suffisante pour que les bateaux puissent passer en dessous.
Éric, pourquoi retenter ta chance dans un milieu rural quand ça n'a pas fonctionné à Arthabasca?
Bien, ça a fonctionné dans un milieu rural à Arthabasca. J'ai gagné toutes les villes, sauf à Victoriaville. Je m'en vais dans un comté où il n'y a pas de ville-centre. Fait que là, je vais être correct. Puis il y a aussi le fait que c'est plus proche de Québec. Là. C'est sûr que je veux m'établir dans le comté. Là. Si je suis élu, si les gens me font l'honneur de m'élire le 5 octobre prochain en Bellechasse, j'ai l'intention de déménager dans le comté. Puis c'est tantôt, tu l'as dit, Yannick, là, c'est quand même bizarre. Là. La fille qui est là, ça fait 8 ans qu'elle est députée, elle n'a jamais vécu dans le comté de sa vie, puis elle m'accuse d'être parachutée, puis elle dit que le monde qui voterait pour moi, là, pour ça, ça serait des cons. J'ai trouvé ça assez bizarre. C'est la première fois que j'ai une attaque comme ça, que c'était si facile à déjouer, là, à répliquer. Je pensais jamais, en fait, me faire attaquer là-dessus, surtout pas par elle. Mais c'est surtout que au Québec, là, vous le savez, hein, pratiquement tous les chefs n'habitent pas leur circonscription puis changent souvent de comté. Je suis pas le premier, là, je suis pas l'exception à la règle, c'est plutôt la règle, en fait. L'idée, cette idée-là, puis c'est normal. Quand tu es chef de parti, tu n'es pas juste un député d'une circonscription, tu te promènes dans les 125 comtés, tu peux pas faire campagne à temps plein dans ton comté, donc c'est normal que tu ailles là où tes chances sont les meilleures.
Hier, c'était assez particulier de voir ça, les images de Christine Fréchette qui est en train de se faire questionner par André Fortin, qui est le chef de l'opposition officielle au Parti libéral du Québec à l'Assemblée nationale. Christine Fréchette qui ignore totalement que le gouvernement ramasse 300 millions de plus avec l'augmentation de la TVQ sur les produits d'assurance, sur les primes d'assurance, ce qui réduit, on va se le dire, là, le montant qui reste dans les poches des Québécois. Donc, elle ignorait ça totalement. Elle n'était pas non plus au courant de la dette nette du Québec. C'est quand même le genre d'information que tu dois avoir de base. Là. Si tu t'appelles Jeff Tremblay, puis tu travailles, toi, je sais pas, dans une cour à bois, tu n'es pas obligé de savoir c'est quoi la dette nette du Québec. Mais quand tu es premier ministre ou premier ministre du Québec, c'est quelque chose de base à savoir, surtout quand tu dépenses l'argent.
Mais surtout, c'est ça. Surtout quand tu es dans une. En 42 jours à dépenser 340 millions. Il me semble que quand tu dépenses à ce rythme-là, faut que tu t'assures d'avoir les moyens de le faire. Faut que tu saches si ou non il y a de l'argent dans le compte de banque, puis combien tu dois. Puis, tu sais, c'est sûr là, qu'il y a toutes sortes de définitions. Tu sais, tu as la dette brute, la dette nette. Il y en a même qui ajoutent le fédéral là-dedans, parler de la dette totale du citoyen. Il y en a qui le calculent par citoyen. Il y en a qui le calculent au total tout. Puis, tu as les sociétés d'État, si tu les inclus, si tu les inclus pas dans le calcul. Fait qu'il y a différents chiffres, là, puis je comprends que ça peut porter à confusion. Mais elle aurait pu au moins avancer un de ces chiffres-là, qu'elle n'en connaisse aucun. C'est sûr que c'est préoccupant. D'abord, ça signifie qu'elle visite pas souvent le site de l'Institut économique de Montréal, qui, lui, calcule la dette en temps réel, autant au fédéral qu'au provincial. Puis ça démontre qu'elle a peu d'intérêt pour ça. Puis c'est pas la première là, qui s'est attaquée là-dessus. Je me souviens que Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a quelques mois, s'est aussi fait demander c'était quoi la dette du Québec. Il n'y avait aucune espèce d'idée. Donc, c'est inquiétant. C'est des politiciens qui ont remarqué, là, les gens qui ne savent pas c'est quoi la dette, là, c'est du monde qui habituellement gaspille et sont prêts à nous endetter encore plus. Puis je pense que c'est parce qu'ils ne prennent pas conscience de l'ampleur du problème. Puis le mur dans lequel on est en train de foncer, puis la situation épouvantable dans laquelle les jeunes vont se retrouver, parce que de la dette, là, c'est de l'impôt reporté, puis il y a une génération qui suit, là, qui va être obligée de payer un jour pour ça. Là.
Parce qu'Éric, quand on regarde les images, on en parlait avec Denis Gravel tantôt, André Fortin pose une question simple, là, c'est quoi le montant de la dette nette? Et là, Christine Fréchette a de l'air d'un orignal sur l'autoroute qui voit un camion arriver avec ses lumières. Elle demande à son équipe, on parle d'une 10-12 personnes qui étaient derrière elle, qui n'avaient aucune idée non plus. En deux secondes, c'est possible de le retrouver sur notre cellulaire. Là, on fait une simple recherche Google, là, dette nette du Québec, et on a le chiffre qui sort. Ça prend moins de deux secondes. Puis là, les Top Guns qui sont derrière elle, qui sont là pour l'aider, pour l'appuyer, les réponses qu'ils ont données, puis on l'entend là, lorsqu'ils ne parlent pas fort, il a donné le PIB. Il a donné... André Fortin veut la dette nette, puis le gars en arrière qui souhaite un Top Gun donne le PIB. C'est gênant.
C'est très inquiétant. Mais en fait, c'est décevant, c'est gênant, mais c'est pas nécessairement surprenant. Parce que on n'a pas, encore une fois, il y a pas de prise de conscience de qu'est-ce que ça signifie s'endetter. On dirait qu'on n'est pas catastrophé par le fait que le Québec a enregistré les pires déficits de son histoire sous la CAQ au cours des dernières années. On est encore à 8,6 milliards au moment où on se parle. C'est comme si c'était pas grave parce que c'est pas nous autres qui va le payer. On va pousser ça en avant. Puis cette culture-là, faut que ça arrête. Là. Si le Québec a été décoté là, il y a quelques mois, c'est à cause de ça. Si on va peut-être être encore décoté dans les prochains mois. Là. Ça continue à dépenser au rythme où est parti. Puis un mois, là, attendez-vous à une autre décote. Là. Je veux dire, tu peux pas continuer à présenter des chiffres, puis à pas respecter tes budgets, puis à pas te soucier de ton taux d'endettement. C'est totalement irresponsable. Il y a pas une famille qui nous écoute qui agit comme ça. Là. Les pères, les mères de famille, ils savent exactement combien ils doivent c'est quoi leur dette. Là. Et je trouve ça très, comment je te dirais ça? C'est un bon reflet du problème actuel au niveau des finances publiques. Puis si aujourd'hui, on a une crise des finances publiques au Québec, ils sont en train de frapper le mur parce qu'on a eu une classe politique, tout parti confondu, là, qui a agi de la même façon que Christine Fréchette à l'heure actuelle.
Tu as travaillé en politique pendant des années, Éric Duhaime. Est-ce que tu as l'impression qu'actuellement, c'est Christine Fréchette qui a les clés du Québec ou c'est plus l'ancienne administration qui est là en support pendant que Christine Fréchette est entourée de ses faiseurs d'images, les gens au marketing pour trouver des affaires pas pires? Tu sais, le 96 cents par jour pour l'épicerie, ça a fait jaser. On en parle à la radio, on en a parlé à la télé, on en parle dans les journaux. Visiblement, elle ne semble pas être aux opérations au day-to-day.
Non, c'est sûr que c'est la même équipe qui est aux commandes. Puis elle aussi, en passant, elle faisait partie de l'équipe de Legault. Il faut jamais oublier ça. Elle était autour de la table du Conseil des ministres pendant des années. Là. Hier, quand André Fortin, justement, l'a questionné sur les hausses de taxes au niveau des assurances, là, ça disait qu'elle était pas au courant, mais elle était autour de la table du Conseil des ministres quand ça a été décidé, puis elle a voté en faveur. Fait que, tu sais, c'est ça qui est la différence, je pense, entre elle et Mark Carney au fédéral. Mark Carney avait comme un bras de distance entre lui et Trudeau, puis il pouvait dire qu'il y avait quelque chose de nouveau. Elle est carrément au cœur de ce qui marchait pas avec la CAQ, puis elle a de plus en plus de difficultés à se dissocier de l'héritage de François Legault. Puis les gens qui étaient tannés, qui étaient insatisfaits du gouvernement de la CAQ, de François Legault, ben ils sont de plus en plus insatisfaits aussi de Mme Fréchette parce qu'ils réalisent de plus en plus que c'est du pareil au même. C'est la digne successeur de M. Legault.
En terminant, Éric, je dois te laisser partir. Je pense que Jeff va avoir une question pour toi. Je veux te faire entendre un extrait, puis j'aimerais ça que tu me résumes ce que Christine Fréchette voulait dire exactement à André Fortin concernant le fameux référendum.
Advenant un référendum sur la souveraineté, la première ministre se rangerait dans quel camp?
Nous, on est dans le camp des Québécois. Les Québécois n'en veulent pas de référendum et c'est le parti qu'on a choisi, c'est le camp des Québécois.
Alors, ce que la première ministre nous dit aujourd'hui, c'est que si le Parti québécois est élu et qu'elle est députée de Saguenay, elle va rester sur les lignes de côté?
Les Québécois ne sont pas là. Les Québécois ont évolué c'est en phase avec les Québécois qu'on avance. On travaille notamment sur le coût de la vie.
Les Québécois ont évolué, mais est-ce qu'elle a évolué? Parce qu'en 1995, elle a voté pour le oui. Alors, est-ce qu'elle a évolué depuis?
J'ai évolué. Je suis dans le camp des Québécois.
Et vous ne l'étiez pas à
l'époque? Et les Québécois n'en veulent pas de référendum. On travaille pour qu'il n'y en ait pas. C'est notre orientation.
Peux-tu me traduire ce qu'elle voulait dire exactement? Puis toi, de ton côté, Éric Duhaime, s'il y avait un référendum, tu serais de quel côté?
Ben moi, je suis d'accord avec Christine Fréchette là-dessus. Les Québécois, ils n'en veulent pas. Il y a aucun... Regardez ce que vous voulez. Je sais que ça excite les libéraux et les péquistes. Puis c'est un oui, puis c'est un
ouais,
non.
Mais là, elle dit que...
Ils rêvent de retourner d'un film en noir et blanc des années 80. Là.
Oui, mais ceux qui veulent un référendum, Éric, sont des Québécois. Là. C'est, tu ne peux pas exclure ces gens-là. Tu es la première ministre.
La majorité de la population, pourrait dire comme ça. Là, mais sérieusement, là, je vais t'amener une journée faire du porte-à-porte avec moi, Yannick. Là. Puis je dois voir, on va avoir de la misère à en trouver un qui va nous dire que c'est sa priorité. Même ceux qui votent le Parti québécois, ils n'en veulent pas de référendum parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre. Donc, c'est pas dans la saveur du jour, mais malheureusement, on a le Parti libéral et le Parti québécois qui carburent à ça parce que pour eux autres, polariser sur cet axe-là, c'est politiquement rentable. Puis regarde, on parle de ça hier, tu vois, ils ont réussi, ils ont tenu l'attention. Hier, le Maïté Blanchette-Bézina, c'était 4 heures hier, l'étude d'écrivain avec la première ministre. Là. Nous autres, au Parti conservateur, on avait 5 minutes. Sur 4 heures. Puis pendant 5 minutes, elle a réussi à faire reculer le gouvernement sur la réforme du code du bâtiment. Parce que là, il y a un nouveau code qui va entrer en vigueur à partir du mois d'octobre. Puis Maïté a questionné la première ministre en lui rappelant que ça va faire augmenter les coûts de construction de 8% au Québec, alors qu'on est en pleine crise du logement, que c'est la pire chose qui peut arriver. La première ministre a démontré une ouverture. Elle a été sensibilisée parce qu'elle a dit. Puis 2-3 heures plus tard, Jean Boulay, le ministre responsable, est sorti pour dire qu'elle allait reporter l'entrée en vigueur du code d'au moins 1 an. Fait que, tu sais, on a fait un gain réel, là. Mais ça fait pas une manchette, là. Cherchez pas ça dans les journaux un matin, vous le verrez pas. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire, êtes-vous dans le camp du oui, êtes-vous dans le camp du non. Puis Mathieu Lacombe, il va voter oui, puis Jean Boulay va voter non. Puis ça excite les journalistes. Mais pour le monde qui nous écoute, là, hier, ce que Maïté a fait dans son 5 minutes, là, elle a réussi à faire reculer un code qui aurait augmenté les coûts de logement de 8% au Québec. Puis ça, malheureusement, ça ne défrait pas les manchettes parce que ça n'intéresse pas notre classe médiatique.
Éric, en terminant, vous étiez à 11% dans les sondages lors du dernier sondage. Tu vas faire quoi comme stratégie pour ta campagne électorale? Est-ce que tu vas plus te concentrer région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, ou compte tenu que tu es un chef, tu vas quand même essayer là, d'aller dans la région de Montréal?
C'est une bonne question. C'est sûr qu'il faut concentrer là où on a les chances de faire des gains. Je l'ai dit, il faut gagner au moins 12 circonscriptions si on veut être un groupe parlementaire officiellement reconnu à l'Assemblée nationale.
Donc, c'est l'objectif.
C'est le minimum, c'est le plancher. Je te dirais que si tu me dis on va en gagner 60, je vais être content, là. Mais je pense que 12, là, c'est un objectif réaliste à court terme. D'ailleurs, c'est ce qu'à peu près nous donne, quoi, 9, 10, 11 comtés présentement. Là. Puis on aurait même la balance du pouvoir. Là. Vous imaginez, s'il y avait une élection aujourd'hui, là, c'est possiblement le Parti conservateur qui déciderait justement qu'il n'y aurait pas de référendum, même si le PQ est au gouvernement minoritaire. Donc, ça va être ça notre priorité. Cela étant dit, je veux juste que les gens au Québec comprennent là, C'est très difficile au Québec faire une campagne sans passer à peu près la moitié de la campagne à Montréal. Parce que tout nous ramène tout le temps à Montréal. T'sais, il va y avoir des grandes entrevues, là, cinq chefs, un débat, cinq chefs, une élection. Après ça, tu as trois ou quatre débats des chefs. Et après ça, tu en as un en anglais. Après ça, tu as les rassemblements de l'UMQ, de la SQM, de l'Institut du Nouveau Monde. Tu as plein de débats, puis de rassemblements ou de panels où tu n'as pratiquement pas le choix d'aller. C'est toujours à Montréal. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, je veux le soulever avec la commission des débats, là. J'espère qu'on va en faire au moins un à Québec. On est une capitale nationale. Ça serait normal qu'il y ait un des débats des chefs là, qui ait lieu à Québec, que les débats des chefs ne soient pas systématiquement tous à Montréal. C'est un non-sens, c'est une aberration par rapport au rôle de capitale nationale que doit occuper Québec.
Éric Duhem, merci.
Bonne journée.
Il est le chef du Parti conservateur.